Vas-y, bouffe-le.
La petite bouffe.
Allez, donc, t'es un sacré dégueulasse, toi.
Radio Campus Paris.
Mais vous êtes bien gentil, mais moi j'ai faim, je vais commander mon déjeuner.
S'invite.
Tu vous fais au fan avec.
Dans ta cuisine.
Ça suffit. Vous avez assez bouffé.
Moi, j'ai fait la politique à travers la cuisine. J'ai fait la philosophie, l'économie à travers la cuisine, l'art à travers la cuisine. On en a fait, tu vois, un lieu réducteur de la femme. Et les femmes se rendent pas compte qu'elles ont un espace de création pour appréhender le monde, pour apprendre le monde, pour elles-mêmes. Tu vois, c'est tout un système.
Salut, bienvenue dans La Petite Bouffe. C'est un peu par hasard que j'ai poussé les portes de la commune libre d'Aligre la semaine dernière. J'en avais entendu parler et je voulais voir ce qu'il s'y mitonnait. Dans ce café associatif du 12e arrondissement, on cause, on parle, on partage beaucoup. Conférences, débats, projections ou repas saupoudraient d'une bonne dose de politique. J'ai rencontré de drôles d'oiseaux à la commune, et de bien beaux, comme Jean-Michel et Amina les cuistots qui préparaient ce jour-là une salade méchouilla et un tagine de boulettes de sardines.
Ça se passe comme ça. L'équipe arrive à 11h du matin, puisque c'est l'heure à laquelle la permanente... Le seul contrat aidé qu'on a pu garder ouvre la boutique. On spécule sur le nombre de repas qu'il pourra y avoir le soir. Par exemple, ce soir, c'est une association, comme hier soir. Donc, ils amènent toujours leurs propres membres, amis et soutiens. Bon, ce soir, on calcule pour 50 repas. Et la caisse de l'association nous donne un budget de 3 euros par repas. Mais comme on a des deals avec les marchands du marché d'Aligre, plus des magasins bio qui nous font des remises, en général, on ramène presque la moitié à la caisse. Je fais d'abord une batterie de menus possibles, mais après, je suis ouvert à toutes les suggestions. Par exemple, ce soir, j'avais prévu tout à fait autre chose, et puis quelqu'un m'a dit, j'ai un deal avec le poissonnier, là. Et puis bon, moi, tant pis, pour une fois, il y aura de la viande.
Je suis une adhérente depuis plusieurs années du Café de la Commune. Et là, votre mission, là, du coup, c'est de d'éplucher les poivrons.
C'est d'éplucher tous les légumes, c'est de préparer le repas.
Vous savez ce que c'est, le dîner de ce soir?
Non, on fait confiance, nous, on est des petites mains, donc voilà.
Ça sera la surprise pour moi, j'attends, voilà.
Et pourquoi vous aimez venir ici, vous?
Je suis membre de la Commune. Comme ma voisine, comme Janine, comme beaucoup de personnes ici.
C'est pour soutenir le projet, quoi.
C'est pas que soutenir, c'est le vivre, y participer.
On le vit.
C'est notre projet.
Ça existe, hein.
C'est votre projet.
Ben oui, c'est le projet de toutes les personnes qui sont là.
C'est un plat méditerranéen, tu vois, il est à base de sardines. Et on en fait comme de la viande hachée, tu vois. Tu enlèves la tête, tu enlèves l'arête, tu enlèves la colonne vertébrale, ça veut dire que tu le vides. Et après, la chair, tu la mixes. Moi, j'ai mis de l'avoine, tu vois, pour que ça fasse un liant. Au Maroc, on met du riz, tu vois, le riz aussi, c'est un bon liant, n'importe quelle céréale. Et ça donne des boulettes.
Et t'as mis quoi comme légumes en dessous, là?
Là, il y a des carottes, il y a des olives, il y a des poivrons, il y a des courgettes, beaucoup de coriandre, beaucoup de persil, beaucoup d'ail, du citron confit. Et tout le reste, c'est des épices, c'est la poudre de perlimpinpin. En ce moment, on traverse un état de boulettes. Les boulettes de Macron, les ordonnances, les contrats aidés. Il fait des boulettes, ce mec-là. Donc c'est pour ça que c'est pas anodin que j'ai fait les boulettes, tu vois. C'est vraiment...
Bien choisi, quoi.
Ouais, il est en train de nous mixer. Il est en train de nous enlever vraiment notre verticalité, notre ossature, et l'ossature sociale, quoi. Et il est en train de nous étêter, ça veut dire en train de nous enlever la tête. Il est en train de nous mixer, tu vois, on est en train de nous...
Nous transforme en boulettes, quoi.
Nous transforme en boulettes, nous rouler dans la farine. Alors ça suffit. Donc moi, j'ai appelé mon plat, voilà, boulette à la Macron.
À la boulette.
La boulettologie moderne, c'est en fait un point de vue artistique qu'on a développé avec Maître Dubreuil et qui donne non pas un regard sur son assiette, mais plutôt... Un axe un peu opposé, c'est-à-dire comment l'assiette regarde le monde. Et en boulettologie moderne, on est plutôt sur, notre travail, d'être sur du hors-champ, de désaxer le regard et d'utiliser les rapports à la nourriture plus que la nourriture elle-même. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse plus, ce sont les gens, et le rapport que les gens entretiennent à la nourriture et les comportements que ça provoque. Et à partir de là, évidemment, ça se décline aussi bien dans une assiette ou dans de la nourriture proprement dit, mais ça se décline et c'est là où ça devient magique dans toutes les formes d'expression de l'humanité. Voilà, pour faire simple.
On dit toujours que la boulettologie n'est pas un noir masturbatoire, mais copulatoire. Parce que faire de la boulettologie tout seul, ça peut être agréable, mais ça n'a pas de sens pour le maître boulettologue. Le maître boulettologue conduit l'impétrant, le jeune, qui ne sait pas encore qu'il est boulettologue, sur les chemins de la boulettologie, à partir du moment où il a fait l'expérience de la boulettologie avec des inconnus.
Inconnus au bataillon, allez, on s'en va!
J'ai faim. L'air est très vif. Que pourrait-on manger ?
Tu veux des chips ? Et puis j'ai des bretzels.
Les Miam News cette semaine, elles sont très riches. Non à l'amendement Nutella, c'est les grands fans de cette pâte à tartiner qui pousse un ouf de soulagement puisque cette taxe Nutella a été reportée à l'Assemblée. Elle visait à augmenter de 30% la taxe sur l'huile de palme, cette huile qui entre dans la composition du Nutella est très utilisée dans l'industrie agroalimentaire et d'ailleurs accusée d'avoir des effets nocifs sur la santé et l'environnement, à l'origine par exemple d'une déforestation massive. Mais cette taxe a ému dans le monde entier, jusqu'au Nigeria, où des économistes ont dénoncé cette attaque contre les petits producteurs africains. Et en Malaisie, où le Conseil malaisien de l'huile de palme a appelé le gouvernement français à rejeter une agression sans fondement, menaçant la survie de petits paysans. J'ai envie d'ajouter celle d'étudiants. Oh. L'invention du chewing-gum biodégradable. Incroyable mais vrai, c'est une révolution qui n'est pas de la gomme. Le chewing-gum biodégradable arrive en Europe. Et oui, Rêve 7 comme 007 a été mis au point par une PME britannique. Outre-Atlantique, on le mâche déjà depuis plusieurs mois. Il se désagrège au bout de 6 mois quand les chewing-gums classiques mettent 5 longues années à disparaître, après avoir évidemment constellé les chaussées et scotché vos semelles au bitume.
Mais ça arrive quand en France, ça ?
Ça arrive là, maintenant. Préparez-vous, surveillez les étalages et mâchez, quoi. Enfin, le président américain a donné une seconde chance mercredi à deux dindes. Et là, je parle bien d'animaux, puisqu'il s'agit des fameuses dindes mangées pour Thanksgiving. Barack Obama a symboliquement gracié une tradition qui existe depuis Kennedy, deux dindes, mercredi, à la veille de cette fête, au cours de laquelle les Américains ont englouti, vous devinerez jamais combien, quelques 45 millions de ces volatiles.
Ah, c'est énorme.
Une fois graciées, alors elles s'appelaient Cobbler et Gobbler, 19 kilos chacune quand même, sont parties couler une retraite heureuse dans les jardins de Mount Vernon, la propriété du premier président américain, George Washington. Enfin, pour finir, on peut juste dire que l'Europe va sauver les requins. Et oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Parce que le Parlement européen vient d'interdire la découpe d'ailerons. Vous savez, ça s'appelle le finning. Et le finning, en fait, ça consiste à découper les ailerons à bord du navire de pêche avant de rejeter les pauvres squales agonisants à la mer. Donc maintenant, il y a une loi. Hein. Elle énonce l'obligation de débarquer les requins avec les nageoires naturellement attachées au corps hein, et pas recousues ou de fausses nageoires, largement destinées à l'Asie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les ailerons sont vendus 20 à 40 euros le kilo contre 1 à 2 euros pour la chair de requin, donc largement plus rentable. Et apparemment, on en fait des soupes. Je ne sais pas, vous avez goûté, vous ?
Oui, en Asie.
Sophie ?
Oui, c'est en fait, ça n'a pas tellement de goût. C'est surtout une histoire de texture, mais surtout de vertu médicinale.
Ça ne rend pas, pour les hommes, genre, c'est pas
aphrodisiaque ? Comme à peu près tous ces aliments, alicaments, si on peut dire, miraculeux en Chine, c'est évidemment fait pour booster la virilité. Mm-hmm. Et puis, bien entendu, aussi la longévité, renouveler le sang et rafraîchir le corps. Mais c'est surtout dès que c'est pourchassé, en voie de disparition et en passe d'interdiction, c'est toujours des trucs qui boostent la virilité.
Ah oui.
Parce qu'il y a évidemment une surpêche, une surchasse, ça dure depuis très longtemps. Mais là, effectivement, c'est seulement l'aileron, c'est la gélatine que contient l'aileron qui est extrêmement bénéfique.
Aussi bénéfique que le thé.
Et bah, oui, dans un autre genre.
Voilà. Bah, merci Elodie pour ces news miamesques. Et bah, ça tombe bien, nous on va se pencher sur une histoire, Sophie, celle du thé. Tcha, Cha, ta, yeti, le mot vient du Amoy, dialecte chinois, té, vous confirmez ?
Cha, oui, en fait, té, je crois que c'est Amoy, effectivement, c'est un dialecte du Fujian.
Voilà, et puis avec le commerce du produit, eh ben, ça s'est un peu éparpillé partout en Europe. Il y a eu des variantes en italien, espagnol, ti en anglais, té en français, téja en lettonne. Côté portugais, espagnol, hindi, le mot mandarin, cha, fut choisi pour désigner cette boisson. Et la plante en question, l'arbuste, c'est le Camellia sinensis, c'est bien
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
Il n'y a qu'un arbre, il n'y a qu'une plante.
Non, il y en a deux. En fait, il y en a deux. Il y a le Camellia sinensis et le Camellia assamensis. Il n'y a que deux variétés. Mais en fait, la plus répandue, c'est sinensis. Assamensis, on la trouve à peu près au nord de l'Assam, comme son nom l'indique, au nord de la Birmanie. En fait, c'est aux confins de la Birmanie, du Yunnan et de l'Assam. Ce serait une variété sauvage, mais il y a une très, très petite quantité, très petit pourcentage de thé.
Les deux différents, il y a une différence de goût entre les deux arbustes ?
Alors, je sais pas, parce que j'ai jamais goûté l'Assamensis, bon. Mais c'est quand même rare. C'est pour dire simplement que la variété la plus répandue, c'est Sinensis.
D'accord. De toute façon, il lui faut de l'altitude, des terres riches, de l'humidité et de la chaleur. Donc, pas trop à Paris, pas trop en Europe. C'est ce qui explique pourquoi le berceau du thé reste la Chine.
Oui.
Et puis, pour une petite idée de la consommation, elle est passée par trois phases. L'âge du thé bouilli sous les Tang, donc 618-907. L'âge du thé battu sous les Song, 960-1279.
C'est quoi le thé battu, pardon ?
Alors,
Vous voyez le thé en poudre matcha utilisé au Japon,
ouais.
Eh bien, le thé battu, c'était ça. C'est fouetté. Après, effectivement, la phase du thé bouilli, et en Chine, on ne consommait pendant la dynastie Song que des thés en poudre battus, fouettés.
Comme au Japon.
Le matcha. En fait, ouais. Le matcha et le Japon est le seul pays qui maintenant boit le thé encore comme ça. Mais il faut savoir que c'est une pratique chinoise très ancienne.
Et on a redécouvert le thé en feuilles, alors finalement assez récemment.
C'est la période Ming. Hein.
Voilà. Oui. Ouais. Le thé infusé.
Salut mon frère, ça va ? Tu viens de thé à la menthe ?
Alimentaire, mon cher Watson. L'émission qui mène l'enquête de la fourche à l'assiette.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Alimentaire, mon cher Watson. Je vous emmène en balade, loin de la pollution et du tumulte parisien. Partons prendre l'air le temps d'un intermède radiophonique sur les chemins du sud de l'Île-de-France, à la découverte d'une plante longtemps oubliée et qui a fait son grand retour dans nos assiettes, le cresson. Autrefois seulement connu à l'état sauvage, son ramassage se faisait dans les fontaines et les ruisseaux où il poussait naturellement. Mais dès le 19e siècle, des cultures se sont peu à peu mises en place dans l'Oise, puis dans l'Essonne, qui, grâce à sa richesse en sources d'eau pure, est devenu le premier département producteur. Malheureusement, la pollution et l'étalement urbain ont largement fait diminuer son exploitation. D'ailleurs, la plupart d'entre nous n'y ont encore jamais goûté. Cependant, depuis quelques années, cette plante aquatique connaît un regain d'intérêt, et nous avons décidé de partir à la rencontre de Monsieur et Madame Barberon, cultivateurs à Méréville, la capitale francilienne du cresson.
Je m'appelle Serge Barberon, je suis aujourd'hui retraité, mais j'ai tout laissé au nom de ma femme. Il y a mes enfants aussi qui travaillent avec ma femme. On fait une entreprise familiale, on cultive le cresson bio. Dans les années 90, le cresson se vendait moins. Alors on a choisi ce critère de faire du bio.
Merci de nous accueillir au cœur de votre cressonnière dans les petits prés de Méréville, c'est ça ?
Voilà, dans les petits prés de Méréville, mais enfin on n'a pas que ce site-là. On a 4 sites, on travaille sur 1 hectare à peu près et demi de cresson bio. On fournit tous les clients bio, pour qu'on a pas le droit de parler de nos clients, parce que c'est une publicité. Mais enfin on travaille beaucoup avec les chefs aussi.
Des grands chefs parisiens ?
Des grands chefs, comme Yannick Alénaud, Cyril Ignac, Piège, Vincent Ferniaud aussi, puis plein de clients d'Orangis, d'autres chefs que je ne connais pas, parce qu'on a un groupe qui s'appelle Terroir d'Avenir, qui nous dispatche le cresson dans tout Paris, et qui nous fait connaître de tous ces chefs.
Et alors le cresson, comment on cultive du cresson? Parce que c'est assez peu connu finalement chez les jeunes.
Le cresson, on appelle ça du cresson de fontaine. C'est des sources qui sont contrôlées par la DGAL. On est obligé de prendre des autres sources, on n'a pas le droit de rivière, c'est strictement interdit. Et le cresson, c'est une plante semi-aquatique qui pousse dans l'eau de source, dans l'eau qui ne stagne pas. Il faut que l'eau elle coule à une vitesse de une vitesse de 5 à l'heure quoi, dans les fosses, qui va se rejeter à la rivière. Ça, elle va dans une décharge.
Et alors, le cresson, ça se recueille à quelle saison? Il y a des saisons?
Le cresson, c'est septembre-mai. C'est-à-dire qu'il y a 9 mois de récolte. Et les 3 mois, là, on fait des semis d'été. Mais là, on est la période vraiment morte où on va tout semer. Là, on est en train de faire nos graines de cresson. Dans la semaine, je vais semer un fossé. Je vais mettre un demi-litre de graines mélangées dans du sable, dans une fosse à sec. Et puis après, tout à petit, je lâcherai l'eau au moment que la végétation commence à sortir.
Et alors, le cresson, ça met à peu près combien de temps à pousser?
Le cresson, il met de 4 à 5 semaines. L'été, des fois, il peine un peu plus. On dit toujours, des fois, c'est 5-6 semaines, quoi. Puis en bio, c'est difficile aussi de faire pousser le cresson, parce qu'on sait que le bio, on n'a pas le droit aux engrais chimiques, les insecticides chimiques, il faut travailler avec du naturel. Déjà au départ, on perd 3 coupes sur un conventionnel, puisque le bio, c'est bio, on a un cahier des charges à tenir par notre certificateur. C'est pour ça qu'on peut dire que ça pousse moins, qu'on a moins de récolte, mais on sait ce qu'on mange aussi.
Voilà, c'est ça, il y a quand même une qualité derrière.
Une qualité derrière, oui.
Et les grands chefs qui viennent vous acheter du cresson, vous savez qu'est-ce qu'ils recherchent?
Dans le cresson, moi, Yannick Aleno, c'est un ami. On le sait que c'est un des meilleurs chefs du monde. Il a quand même une quarantaine de restaurants dans le monde. Yannick Aleno, lui, ce qu'il recherche, c'est faire des mousses, faire des décos avec le cresson. Puis il y a d'autres recettes aussi. Mon vin, le cresson, ça sert à beaucoup de choses, quoi.
Et quel goût ça a, le cresson?
Le cresson, c'est légèrement poivré. C'est une salade, c'est rien à voir avec la salade de jardin. C'est légèrement poivré, puis ça a plein de vertus, ça a plein de minéraux. C'est même très bon pour prévenir le cancer aussi. Il y a eu des études en Angleterre qui ont été faites comme pour dire que le cresson, il y a tellement de minéraux que c'est très bon pour certains cancers. Mais il faudrait en manger assez souvent.
En ce moment, il y a un petit peu la mode des super aliments qu'on va chercher à l'autre bout du monde, mais finalement, il n'y a pas très
le
y a
cresson,
pas besoin
non,
d'aller chercher.
Vous l'avez eu en Europe. Le cresson, c'est hyper connu. Les Anglais, ils en sont fans. Au Brésil aussi, le cresson, c'est tellement riche en vitamines, c'est très bon pour le sang. Le cresson, il faudrait en manger un peu plus, quoi. On transforme aussi nos produits en laboratoire et aussi on fait des stages pour l'école de Brie Comte-Robert qui viennent pour apprendre à cuisiner.
Et qu'est-ce que vous proposez comme recette?
La recette, vous pouvez faire le potage, la soupe, ça c'est bien connu. Des soupes, des purées, des pizzas, des quiches. Et en plus, on fait un crémousson. Un crémousson, c'est un pâté végétal. Je vous le recommande, c'est très bon.
Miam miam.
J'y goûte très bien.
Elle a quel âge, notre dindonne?
C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moule?
Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça?
Plus sec, hein. Mais si on repassait à la recette de notre dindonne?
Vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
Et puis je pense qu'on va sauter le fromage.
Les coudes sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris.
La France est le pays usant le plus de pesticides en Europe. 20% de ces pesticides sont pulvérisés dans les vignes, qui représentent seulement 3% de la surface agricole du pays. Levures chimiques, arômes artificiels et doses importantes de soufre sont alors monnaie courante dans l'industrie viticole, dans le but de se conformer à un goût répondant aux demandes du marché. Car c'est bien d'un marché gigantesque dont on parle lorsque certains hectares de vignes sont vendus plusieurs millions d'euros à des investisseurs de tous horizons, déconnectés d'un savoir-faire riche de plusieurs siècles de culture. Certains vignerons, pourtant sur la même planète, ne partagent pas cette vision. Des hommes et des femmes amoureux de leur terre mettent en œuvre une production dans le respect de la nature et tentent de rétablir la notion de plaisir, celle de déguster un vin parfois trop fougueux, mais bien vivant, qui exprime le terroir dans lequel il a grandi, bien loin des étagères de la grande distribution et de la standardisation qu'elle implique. Qu'est-ce que le vin naturel ? Quelles sont les différences entre un vin nature, un vin bio ou encore un vin biodynamique? Quelle place donner à l'intervention de la chimie? Alors que la vente des vins naturels est en augmentation en France et que certaines grandes tables ne jurent plus que pour eux, nous nous interrogeons sur les origines de ce mouvement. Certains le voient comme un effet de mode porté par des illuminés, d'autres comme une marque d'authenticité, comme en témoignent certaines étiquettes aux accents punk. Est-il possible de faire un bon vin nature répondant aux critères des œnologues? Qu'est-ce qui finalement fait un bon vin.
À Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table.
On rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération.
Alors merci Lise pour cette introduction qui lance notre toute première édition de l'émission Les coudes sur la table. On se retrouve avec Antonin, Yomi, Amunetugi. Non, bah, je vais y arriver. Amunetugi. Personne n'y arrive. Je me plante donc. Et Thomas Wolfman. Alors bonjour à vous deux d'abord.
Bonjour.
Alors Antonin, vous êtes journaliste, critique vinicole et auteur du blog No Wine is Innocent sur le site d'information Rue 89. Blog irrévérencieux, souvent drôle, impertinent et reconnaissons-le, assez engagé pour le vin naturel et pour les vins vivants. Alors j'ai envie de vous demander. Aujourd'hui, quels sont vos derniers écrits et quel est votre coup de gueule du moment ?
Mon coup de gueule du moment, c'est précisément la différence de traitement entre les pesticides et le vin naturel. C'est-à-dire que c'est arrivé là la semaine dernière pratiquement. Un caviste restaurateur du Nord-Pas-de-Calais qui avait affiché sur une ardoise tout simplement la définition de ce qu'il pensait être le vin naturel, qui en l'occurrence était celle de Marcel Lapierre. Donc, je ne vais pas développer, mais c'est un vigneron très connu qui est mort en 2010. Et pour ça, il s'est fait choper par la répression des fraudes. En gros, en bref, parallèlement, on vient d'apprendre que les pesticides qui sont vendus, commercialisés, sont vérifiés par leur propre fabricant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune instance indépendante, alors que c'est obligatoire, qui les vérifie de fait. Donc il y a voilà, ces deux choses, ces deux événements actualités qui sont intervenus presque simultanément. Et moi, ça m'a pas mal parlé, quoi.
Alors, ces écrits, on les retrouve donc sur No Wine is Innocent.
Voilà, sur Rue 89.
Qui est un clin d'œil à un groupe.
Absolument, un groupe. No Wine is Innocent. J'aurais pas demandé, mais je pense que ça les dérange pas. Et surtout pour dire que le vin qu'on boit, bah, c'est pas innocent. Le choix du vin qu'on fait, c'est très important, en fait.
Bon, bah, on va aborder tout ça au cours de cette heure. Thomas Wolfman, vous êtes caviste parisien et gérant des Caves de Prague. Une jolie boutique qui se situe, comme son nom l'indique, rue de Prague, à deux pas du métro Le Drurolin. On y trouve beaucoup de vins nature, mais pas que. On reparlera des vos critères de sélection plus tard. Précisons tout de même que vous bénéficiez d'une large table de campagne et d'une petite terrasse pour déguster. Sur place, des bonnes bouteilles à des prix raisonnables, ce qui est parfois rare parce que vin naturel est parfois synonyme de prix non conventionnel avec des droits de bouchon à 8 ou 10 euros. Bon, merci à tous les deux d'être ici. Alors, j'aimerais débuter cette émission par une clarification des termes que l'on va employer tout au long de cette heure, vin bio, vin en biodynamie et vin naturel. Alors pour ça, il serait peut-être intéressant de rappeler avant tout à nos auditeurs les différentes étapes du vin, de la culture de la vigne jusqu'à la mise en bouteille et à sa conservation. Tout cela va nous permettre peut-être de comprendre les différences fondamentales entre les processus cités, donc conventionnels, pour ne pas dire industriels, et les autres. Alors Antonin, est-ce que vous pouvez nous retracer cette étape de la vigne à la bouteille ?
Pour dire les choses simplement, d'abord on doit cultiver la vigne, c'est une plante qui va produire un fruit. Il y a plusieurs façons de la produire, de produire ce fruit. On peut traiter la vigne de façon chimique avec des pesticides de synthèse, différents produits qu'on trouve dans le commerce et qui sont fabriqués, qui sont des produits de synthèse, c'est vraiment de la chimie de synthèse, et parallèlement utiliser des produits chimiques également, mais qui sont naturels. Comme le cuivre. Le cuivre est un élément naturel qu'on peut utiliser, qui va protéger la vigne. Donc voilà, c'est des choix en fait, de culture qui vont donner des fruits. Il y aura des fruits au bout dans tous les cas, avec un rendement plus ou moins élevé. C'est aussi une volonté de rechercher le rendement par rapport à autre chose parfois. Mais le fait est qu'un vin bio est issu de vignes cultivées biologiquement, c'est-à-dire avec le minimum de pesticides et que des pesticides bio. Donc il y a des limites aussi. Par exemple, le cuivre, c'est un certain nombre de kilos par hectare et par an. C'est très limité, alors que bon, d'autres produits, il n'y a pas de limite de produits. Si on n'est pas en bio, on n'a pas de limite. Enfin, on peut s'en imposer, mais on n'a pas de limite de fait. Donc, voilà, donc c'est vraiment des différences qui sont assez complexes. Donc dès qu'on entre dedans, on n'en sort plus. Mais c'est des choix en fait, de culture qui vont, dont vont découler vraiment tout le reste, y compris le vin au final. Et le goût du vin aussi, ça va jouer. Ça peut jouer sur le goût du vin, dès la vigne en fait. Selon les traitements qu'on fait, si le sol est vivant ou pas. Dans la plupart des films qu'on voit qui parlent de ces traitements-là, on voit bien que les sols sont très différents. On l'a vu par exemple dans le film Résistance naturelle, le dernier film de Jonathan Nociter, on voit très bien à un moment une séquence où il y a deux modes de terre qui sont prises dans deux domaines différents. L'une est complètement compacte, il n'y a aucun air, rien qui passe, et l'autre est vivante, c'est de l'humus, on voit bien que c'est vivant. Et forcément, ça a un impact sur la plante. Si ça a un impact sur la plante, ça a un impact sur le fruit. Si ça a un impact sur le fruit, ça a un impact sur le goût du vin au final. Donc vraiment, ça part de la vigne. Après, il y a toute la phase de vinification qui est très importante, parce qu'une fois qu'on a vendangé, c'est-à-dire ramené les fruits dans la cave, dans le chai, on peut balancer un tas de produits dessus, notamment les sulfites, qui sont aussi très importants, parce que ça étouffe quand même le goût du raisin, le fruit, ça le serre, ça l'encerre. On dit que ça scotche les dents. C'est un vigneron qui m'avait dit ça, Henri Milan, en Provence, qui m'a dit que lui, il avait arrêté de mettre des sulfites parce que vraiment, il en avait marre d'avoir les dents scotchées par cette espèce de truc. Et effectivement, ça a tendance à tabasser le fruit et à serrer la chose. C'est-à-dire que c'est vraiment un corset. Le vin est beaucoup plus propre, mais pas dans le sens positif. Il est beaucoup plus corseté, beaucoup plus froid, dur. Et peut-être qu'il tient plus longtemps sous les rayonnages, effectivement, de la grande distribution. Mais au final, pour le plaisir du dégustateur, de celui qui boit, je pense qu'il n'a pas tellement à gagner à ce que le vin soit fait de cette façon-là, qu'on va qualifier d'industriel pour dire les choses vite. Voilà, donc là, j'ai dit pas mal de choses, mais je suis loin d'avoir tout dit. Donc, je ne sais pas si Thomas veut ajouter sûrement certaines choses.
Oui, enfin, moi, c'est vrai que... Pour clarifier les choses, ce qui est bien, c'est d'avoir les bonnes définitions.
Alors, on a un élève appliqué, là, notre logique.
Non, mais parce qu'en fait, en tant que caviste, moi, j'ai énormément de clients qui rentrent dans ma cave et qui me demandent concrètement qu'est-ce que c'est que le vin bio, qu'est-ce que c'est que le vin en biodynamie et qu'est-ce que c'est que le vin nature. Et ce n'est pas très clair, y compris pour certains professionnels. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le vin bio et le vin en biodynamie, on a des définitions, mais on n'a pas vraiment de définition pour le vin nature. Enfin, on n'a pas de réglementation. Donc le vin bio, c'est ce que tu as dit, Antonin, hein, c'est tout à fait ça. C'est des vins issus de l'agriculture, c'est des raisins issus de l'agriculture biologique, hein, tout simplement. Donc sans aucun pesticide, sans aucun fongicide, sans aucun produit de synthèse, produit chimique. On lutte contre les maladies avec des produits naturels. La biodynamie se différencie quand même. Il y a deux différences majeures avec le vin bio. C'est que tout d'abord, on utilise un calendrier planétaire et un calendrier lunaire. Donc ça, c'est toute la partie ésotérique de la biodynamie qui peut prêter aussi à polémique. Et vous avez aussi toute la partie préparation. Il y a des préparations, des décoctions de plantes qui sont utilisées en fait pour lutter contre les maladies. Le but de la biodynamie, c'est de faire en sorte que la plante se défende par elle-même seule. Donc voilà, on va un peu plus loin que le vin bio. Ensuite, la définition du vin naturel. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de vignerons, beaucoup de professionnels. La définition la plus communément admise, c'est quand même un vin qui est fait sans intrants chimiques aucun et normalement sans sulfite ajouté par le vigneron. Après, vous aurez toujours des vignerons qui vous diront « Moi, j'ai ajouté un petit peu de sulfite, mon vin est quand même un vin naturel. » Voilà. Enfin, y a pas de définition du vin véritablement nature. Mais...
Alors, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de label, mais il y a une association qui est l'association des vignerons naturels, ou du vin naturel, j'en doute, qui a mis au point une charte. Enfin, ils n'appellent même pas ça une charte, ils ont rétro-pédalé pour dire que voilà, c'était un engagement des vignerons, où ils disent qu'effectivement le vin doit être bio, c'est-à-dire issu de vignes cultivées en culture biologique, et qu'ensuite il n'y a aucun intrant, à l'exception possible, mais si on peut éviter c'est mieux, d'un peu de soufre, à hauteur de 30 mg par litre maximum, si je ne me trompe pas. Ce qui est en gros 10 fois moins que ce qui est possible de mettre dans le conventionnel.
Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le soufre? Parce que on voit souvent, contient des sulfites sans sulfites, et on ne sait pas forcément à quoi sert le soufre dans la vinification.
Alors Thomas, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est un antioxydant d'abord. Ça sert vraiment à protéger en fait la matière, le vin, d'une oxydation prématurée et de toutes sortes de choses. C'est vraiment, ça tue les bactéries, ça tue le vivant en fait, ça tue ce qui vit dans le vin, ça sert à ça, ça le maintient en place pour un temps le plus longtemps possible.
Ça permet la conservation du vin ?
Oui, ça permet la conservation. Et donc oui, le soufre est là pour protéger le vin. Voilà, c'est une espèce de protection. On met une armure au vin.
C'est ça, c'est un antiseptique et ça permet aussi quand même d'éliminer les maladies qui pourraient se produire en fait lors de la vinification. Et donc aussi, ça permet de le garder, le vin. Voilà, ça permet de le garder 10, 20, 30 ans pour les meilleurs.
Et alors, il paraît que c'est aussi ce qui fait mal à la tête le lendemain quand on abuse un peu sur la bouteille.
Ça, c'est très compliqué, en fait, cette question-là, parce qu'on a tendance à dire simplement que c'est ça, que c'est le soufre, les sulfites qui font mal à la tête. Il semblerait que ce soit un peu plus compliqué. Moi, j'ai lu pas mal d'articles scientifiques assez complexes là-dessus. Mais ça intervient, ça joue là-dedans. C'est-à-dire que si vous avez la barre le lendemain, c'est à cause des produits chimiques qui sont ajoutés au vin.
Oh, quel mal de crâne! Est-ce qu'ici, il y a une porte derrière?
Oui, là-bas derrière.
Allons-y.
Fermez son yacht.
Deux Beaujolais.
Et un Vittel.
Le jeudi 16 novembre, troisième jeudi du mois, c'est le jour de l'arrivée du Beaujolais nouveau sur nos tables.
Un vin que l'on dit nouveau, non pas parce que c'est une invention récente, mais parce qu'il s'agit d'un vin de primeur, c'est-à-dire très peu fermenté, puisque le raisin est récolté au mois de septembre, pour se retrouver quelques semaines plus tard sur tous les zincs de France et de Navarre.
Si l'appellation Beaujolais nouveau date de 1951, la consommation de vin de primeur est-elle beaucoup plus ancienne, parce qu'auparavant, notamment au Moyen-Âge, on ne consommait presque que cela.
Mais alors peut-on dire que le Beaujolais nouveau est finalement une pratique ancienne ?
Ancien, nouveau, on y voit trouble, double.
Ce soir, dans Les pierres qui roulent, on va essayer de démêler tout cela.
Que buvait-on avant ? Comment le produisait-on ? Quand a-t-on commencé à fabriquer des boissons alcoolisées ? Vin et bière avaient-ils le même goût qu'actuellement ? Quel paysage les cultures de houblon et de raisin ont-ils contribué à former ?
Et oui, donc à l'occasion de l'arrivée du Beaujolais nouveau, on a décidé de se la coller, au thème, en vous proposant de vous montrer ce que l'archéologie apporte à notre connaissance de la consommation de boissons alcoolisées dans les sociétés anciennes. Pour en discuter plus sérieusement et plus amplement aujourd'hui, nous accueillons deux invités, Charlène Bouchot, qui est donc archéologue et archéobotaniste au CNRS, rattachée au Muséum d'Histoire Naturelle et donc spécialiste de la période antique.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Yves Dufour, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Jean-Yves Dufour, vous êtes archéologue à l'INRAP et membre de l'équipe archéologie environnementale au laboratoire Arscan, et vous êtes plutôt spécialiste des périodes médiévales, modernes et contemporaines.
C'est bien cela.
Et donc autour de nous, un peu de bruit, hein, ça commence, quelques personnes, de la vie, des bouteilles, puisque nous sommes accueillis aujourd'hui par Thomas Wolfman. Bonjour Thomas. Aux caves de Prague, pardon, tu es caviste. Et donc on est dans le 12e arrondissement et on est très bien accueillis et on te remercie.
Les pierres qui roulent, c'est maintenant sur Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris.
Buvons un coup de rouge.
Il me fout l'estomac en l'air, leur picrate, il est trop vert.
Vous êtes chiants, les gars.
C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la délusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée, ça commence bien avant la gorge, sur les lèvres déjà. Cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale, le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre et on l'éloigne, même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Partout, un rituel de sagesse et d'attente. On voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'en échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se répondre en abîme. Rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche, éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences et boit de plus en plus de bière avec moins en moins de joie. C'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée.
C'était un extrait de La première gorgée de bière de Philippe Delerme, qui est sorti il y a une petite quinzaine d'années, je crois, qui montre bien à quel point, comment la consommation de l'alcool est liée à un plaisir dans notre société contemporaine. Et ça peut aussi nous permettre de nous interroger sur comment et pourquoi est-ce qu'on consommait le vin dans les sociétés anciennes. La première question qu'on a envie de se poser, c'est à partir de quand est-ce qu'on commence à boire du vin ? Charlène, par exemple ?
Oui, alors ce plaisir-là devait être effectivement très très ancien. On commence à boire du vin il y a sûrement très longtemps. On a quelques idées maintenant et c'est surtout qu'on commence à boire du vin avant de domestiquer la vigne. Et ça a sûrement. Les plus anciennes mentions qu'on en ait datent du néolithique, du tout début du néolithique, dans le Caucase.
À peu près à quel siècle ?
Donc c'est alors je vous ai apporté un article qui est sorti aujourd'hui qui date d'encore de façon plus ancienne la première consommation de vin. Donc on serait au début du 6e millénaire avant notre ère en Géorgie. D'accord. Où on a retrouvé une jarre dans laquelle on a pu faire une analyse chimique qui montrerait que du vin a été consommée. Probablement, et d'ailleurs, oui, très probablement, à partir de vignes sauvages. Donc du vin fabriqué à partir de raisins sauvages. Et on a d'autres attestations de ce même millénaire, mais un peu plus tardives, où on a également fait des analyses chimiques sur des jarres et dans lesquelles on a pu mettre en évidence des composés chimiques qui montreraient la consommation de vin à partir de vignes sauvages. Donc tout ça, ça se passe au sixième millénaire. Et les premières mentions, donc la domestication de la vigne, ça reste encore une question en mouvement à laquelle il est assez difficile de répondre parce qu'on manque forcément d'éléments. Ce qu'on sait, donc, c'est qu'il y a cette consommation de vin à partir de raisins sauvage. Et puis, au cours du temps, les évidences s'accumulent pour nous montrer que peu à peu, la vigne est domestiquée. Et tout ça, ça se passe entre le 5e, 4e millénaire avant notre ère, toujours au Proche-Orient, donc entre Caucase, Proche-Orient.
Et pour la bière, on a à peu près le même genre de chronologie ?
Alors, pour la bière, c'est plus compliqué. On a moins de données. Donc la bière produite à partir de céréales, notamment d'orge. L'orge, elle est domestiquée depuis encore plus longtemps, depuis entre 10e et 8e millénaire, également au Proche-Orient. Mais les traces de la consommation, l'utilisation de bière, elles sont plus difficiles à mettre en évidence. Et par exemple, en ce qui concerne la France, passons de notre côté, la plus ancienne mention de consommation de la bière, elle remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a trouvé des grains d'orge germés, peut-être qu'on y reviendra plus tard, qui peuvent mettre en évidence la consommation de bière à cette époque.
Alors, est-ce que c'est de la bière ou est-ce que c'est de la cervoise ?
Alors oui, ce serait plutôt de la cervoise.
Alors, quelle est la différence alors entre la cervoise et la bière ?
Alors on a donc la cervoise, c'est donc une boisson fermentée à partir de grains d'orge ou d'autres. D'ailleurs, ça peut être d'autres céréales. Et la bière, on ajoute de l'houblon. Et le rajout d'houblon, c'est probablement principalement à l'époque médiévale, même si on peut avoir des évidences plus anciennes dès l'Antiquité de l'utilisation de houblon pour produire de la bière. Mais voilà, pour l'Antiquité, c'est plus de la cervoise.
Est-ce qu'il y a des alcools ou des vins qu'on ne consomme plus aujourd'hui ?
Qu'on ne consomme plus, qu'on consomme moins, probablement. Alors, on peut faire de l'alcool à peu près avec tout et n'importe quoi à partir du moment où ça fermente. Donc on a les grandes catégories d'alcool de fruits qui donnent des vins et puis d'alcool de céréales qui vont donner de la bière. Et ça, des bières faites à partir de plein de céréales. Je pense aux bières de sorgho, aux bières de mil, qui sont des choses que peut-être que nous, on connaît moins, mais qui ont été consommées et qui sont encore consommées d'ailleurs. Pour les régions que je connais mieux au Moyen-Orient, je pense aux vins de date, qu'on retrouve beaucoup moins maintenant, mais dont on a des traces anciennes de production. Et puis il y a sûrement plein d'autres choses qu'on est incapable de mettre en évidence, mais qui ont dû attirer l'attention des populations humaines en vue d'en faire une boisson alcoolisée.
Et pas venir travailler avec nous, c'est pas de refus.